Les mystères du Palais-Royal, cinquième partie. Chapitre 16. L'habit écarlate. Au moment où Monsieur de la Tremblay, altéré d'air pur, allait se lever et quitter le cabaret, la porte qui donnait sur la rue s'ouvrit, et un nouveau personnage parut sur le seuil. C'était un homme de 40 à 45 ans, grand et fort, aux traits réguliers, et dont la figure aurait paru belle si elle n'avait porté la trace la moins contestable de tous les excès. Les grands yeux noirs du nouveau venu, ombragés par d'épais sourcils de la même couleur, avaient dû être brillants jadis. Mais la débauche et l'ivrognerie, en les ternissant, ne leur avaient laissé que des étincelles de leur ancien éclat. Le nez, fortement aquilin, offrait une teinte écarlate, tirant sur le violet à l'extrémité. Des taches rouges marbraient les joues. La lèvre inférieure pendait, déformant ainsi une bouche d'un dessin correct. Au-dessus de la lèvre supérieure, des moustaches du plus beau noir s'arrondissaient en croc, et leurs pointes, soigneusement cirées, menaçaient l'angle externe des yeux. Une étrange expression de jovialité cynique s'épanouissait sur ce visage, ravagé par les mauvaises passions, et les lèvres, se soulevant en un sourire presque continuel, laissait voir des dents noires et gâtées. Cet individu portait des bas de soie noirs, déchirés sur le mollet gauche, une culotte de drap jadis blanc, une veste de satin bleu éraillée et décolorée, et un habit écarlate à larges boutons d'acier taillés à facettes. Le chapeau lampion, de forme militaire, avait sur tous les bords une étroite ganse d'argent terni. Une longue brette, à poignée de cuivre, soulevait la basque de l'habit de notre personnage. Sa main droite semblait en caresser complaisamment la poignée luisante. Ce nouveau venu fit dans le cabaret une entrée toute théâtrale. Après trois longues enjambées, coupées par trois saluts profonds et comiques, il porta militairement la main à son chapeau et s'écria d'une voix joyeuse et enrouée. « La société est au grand complet, nombreuse et choisie, foi de la rose. » Ex-sergent aux gardes françaises, et tous beaux lurons, tous fiers gaillards, taillés pour le boudoir et pour la bataille. Par ma guitare et par mon épée, le cabaret de Mars et Vénus ne dément pas son enseigne. Vive l'amour et vive la guerre !» Et l'homme, à l'habit écarlate, se mit à chanter, aussi faux que possible, ce vieux couplet. « Faisons l'amour, faisons la guerre, ces deux métiers sont pleins d'attrait. La guerre au monde est un peu chère, l'amour en rembourse les frais. Que l'ennemi, que la bergère, soit tour à tour serré de près. Ah, mes amis, peut-on mieux faire, quand on a dépeuplé la terre, que de la repeupler après ?» Quelques bravos, légèrement ironiques peut-être, se firent entendre quand le chanteur eut achevé. Un joueur de mauvaise humeur, qui venait d'être distrait par le couplet cité plus haut dans une intéressante combinaison, s'écria. « Assez comme ça, troubadour de carrefour. T'es trop enroué pour rossignoler. » L'homme à l'habit écarlate fronça le sourcil. Il jeta un regard furieux sur celui qui venait de l'interpeller ainsi. Il caressa plus que jamais le pommeau de sa brette et fit mine de l'attirer du fourreau. Mais ce geste n'eut pas de suite. Le chanteur reprit presque aussitôt sa physionomie goguenarde et se contenta de répondre. « Par ma guitare et par mon épée, la gingole, je te châtirai. » Foi de la rose, si tu en valais la peine. Mais à quoi bon? Tu t'abrutis sur du carton pour tâcher de filouter trois deniers, et tu es indigne de savourer les trésors de l'harmonie et de la poésie. Le prodiguer devant toi, c'est jeter des perles aux compagnons de Saint-Antoine. Je te plains et je te pardonne. File la carte, pauvre diable, et ne te pique jamais d'être, ainsi que la rose, un parfait guerrier, ni un parfait amant. Puis la rose, car tel était son nom ou son sobriquet, traversa la salle de la taverne dans toute sa longueur, vint s'asseoir à une table voisine de celle de Raoul, détacha sa longue brette qui l'embarrassait considérablement dans cette position nouvelle, et frappa sur la table avec la poignée. L'hôte arriva tout en boitant. Sa physionomie était, en admettant toutefois la possibilité d'une chose pareille, encore plus maussade et plus renfrognée que de coutume. L'homme à l'habit écarlate ne le remarqua pas ou ne fit pas semblant de s'en apercevoir. « Qu'est-ce que vous me voulez ? demanda l'hôte. « Eh pardieu, mon petit père chenillard !» s'écria la rose. « Je veux savoir comment nous gouvernons cette chère santé ?»«
Mal !» répondit laconiquement le boiteux.
« Bah, serions-nous malades ?»«
Cela m'étonnerait, fouette la rose, car nous avons une mine superbe !»«
C'est tout ce que vous avez à me dire ?»«
Non pas, fichtre, non pas !»
Papa chenillard, il fait soif. Comprenez-vous?
Non.
Tête dure, faut-il m'expliquer?
Oui.
Eh bien, donc, en bon français, j'ai soif. Abreuvez-moi. En d'autres termes, donnez-moi à boire.
Quoi?
Tout ce que vous voudrez, mon petit père, pourvu que ce soit bon et qu'il y en ait beaucoup.
Eau de vie, rac ou autre chose, tout me va.
Le boiteux ne bougea pas. Seulement, il tendit la main.
« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda la rose.
« De l'argent. »«
Vous dites ?»«
De l'argent. » La rose se fouilla.
« Absent par congé, »
dit-il ensuite en frappant sur les goussets de sa veste.
« Mais, bah, nous sommes de vieilles connaissances, et par ma guitare et par mon épée, vous mettrez ça sur mon compte. Je vous le paierai avec autre chose. »
Le boiteux secoua la tête.
« Pas de crédit, » fit-il ensuite. « Payez et vous boirez. »«
Mais je n'ai pas ce soir un sou vaillant. »«
Tant pis. »«
Rien qu'une mesure. »«
Nenni. »«
Petit père chenillard, mon digne hôte, soyez gentil. »«
Bonsoir. »
Le boiteux tourna sur le talon de sa plus longue jambe et s'éloigna sans miséricorde.
« Ah, pardieu, » s'écria la rose, « voilà un plaisant drôle. » Si je lui cassais quelque chose. Mais ben, son sang pour me désaltérer ne vaudrait pas un verre de piquette. Par ma guitare et par mon épée, j'abandonne cette taverne inhospitalière. Je voue aux divinités les plus néfastes l'hôte exécrable qui refuse une simple mesure d'eau de vie au gosier desséché d'un orphée sans le sou, d'un guerrier et d'un galant dans le malheur. Et foi de la rose, je ne franchirai plus ce seuil. Le vilain boiteux, l'affreux chenillard s'arrangera comme il pourra. »
Et l'homme à l'habit écarlate allait en effet s'éloigner quand il entendit une voix lui dire.
« Hé, monsieur Larose, un mot s'il vous plaît !»
Il se retourna vivement du côté de celui qui venait de lui parler. C'était Raoul. Larose salua et dit
« Monsieur, je n'ai pas, je crois, l'honneur de me connaître ?» demanda Raoul.
« Non, monsieur.
Rien ne m'étonne moins. « Je ne vous connais pas non plus. »«
Vous venez cependant de prononcer mon nom. »«
Vous veniez de le prononcer vous-même une minute avant. »«
C'est juste. »« Enfin, monsieur, qu'y a-t-il pour votre service ?»«
Monsieur Larose, vous avez une jolie voix. »«
Vous trouvez, monsieur ?»«
Charmante. »«
Ah, passable tout au plus. »« Un peu enrouée ce soir, je crois. »«
C'est possible, mais moi, je m'y connais et je l'apprécie. »
« Trop bon, en vérité.
Il serait grandement dommage de ne point arroser le gosier d'où s'échappe une voix pareille. »«
C'est mon avis. Mais, hélas, monsieur, vous avez entendu le dialogue du père chenillard et de votre serviteur. »«
J'ai entendu. Mon gosier n'a rien à me reprocher. J'ai fait pour lui ce que j'ai pu. »«
Sans doute, mais ce n'est pas une raison suffisante pour mourir de soif, parce que le vilain boiteux, comme vous appelez votre hôte, est un drôle sans cœur et sans entrailles.
Ceci est facile à dire, mais comment faire?
Rien de plus simple.
Dame, je ne vois pas trop.
Il faut tout bonnement vous asseoir en face de moi et me faire le plaisir d'accepter quelques rafraîchissements que je vais demander.
Quoi, monsieur? Vous voulez?
Oui, monsieur, si vous me jugez digne de l'honneur de votre compagnie.
« Ah, monsieur !» s'écria la rose enthousiasmée. « Vous êtes un phénomène de civilité. »«
Oui, monsieur, un phénomène, je ne m'en dédie pas. »«
Votre procédé me touche et m'attendrit. »«
Par ma guitare et par mon épée, je veux devenir votre ami. »«
Foi de la rose, je cultiverai votre connaissance. »«
Oui, monsieur. »«
Oui, mon ami, je la cultiverai beaucoup. »
Et l'homme à l'habit écarlate s'assit en face de Raoul. Chapitre 17 Proposition. Le boiteux, qui avait observé du coin de l'œil ce qui venait de se passer, n'eut pas plutôt vu la rose s'installer à la table de monsieur de la Tremblay qu'il accourut sans qu'on l'eût appelé et qu'il demanda ce qu'il fallait servir à ces gentilshommes.
« De tout, » répondit Raoul en jetant sur la table un écu de 6 livres que Chenillard empocha incontinent. Puis il apporta sans nul retard 2 petits brocs remplis de liqueurs inouïes, mélange frelaté d'alcool et de substances inconnues.
« Ah, mon compère, mon véritable ami !» s'écria la Rose, émue plus que nous ne saurions le dire par cette munificence.
« De par Cupidon, vous êtes un mortel doué du savoir-vivre le plus exquis.
Ah, vertu gadin, vous devez être un parfait amant. Je vois d'ici les cœurs de toutes les belles s'envoler sur vos traces et vous suivre à la piste. Avec quel savoir-faire vous devez les empaumer ?»
Et la Rose remplit son verre 2 fois de suite, puis il dit
« Cette eau-de-vie est bonne, mais ce rack est meilleur. Et quant à ce genièvre, par ma guitare et par mon épée, je vous le donne pour un breuvage digne des dieux, foi de la Rose, et je m'y connais. »
« Comment se fait-il, demanda Raoul, qu'un homme, aussi distingué que vous semblez l'être à tous les égards, se trouve réduit à la position difficile de n'avoir pas dans sa poche un petit écu pour se désaltérer ?»«
Ah, voilà, j'ai eu des malheurs. »
« En vérité ?
Hélas !
Et lesquels ?
Ah ça, mais c'est mon histoire que vous me demandez là. »
« Pas précisément.
Qu'est-ce donc ?
Un récit rapide de votre situation actuelle et des causes qui vous y ont amené. »
« Je vais vous expliquer ça en 4 paroles. Vous me régalez, donc vous vous intéressez à moi. Or, qui s'intéresse à moi ? Un droit à mes confidences. »
Parfaitement raisonné.
Donc, je m'appelle La Rose, ex-sergent aux gardes françaises. Joli grade, n'est-ce pas?
Superbe. Comment l'avez-vous perdu?
C'est l'amour.
L'amour?
En personne. Le petit dieu fripon, le malin Cupidon, fils de Vénus. Ah, le coquin, le charmant coquin. C'est lui, ma foi, qui m'a joué ce tour.
Et l'ex-sergent se mit à fredonner.
Il est aimable quand il pleure, il est aimable quand il rit, on le rappelle quand il fuit, on l'adore quand il demeure. C'est le plus aimable boudeur qui soit de Paris à Cythère. C'est le plus aimable imposteur qui soit né pour tromper la terre. Il fait 20 serments aujourd'hui, et demain il les désavoue. On sait qu'il blesse quand il joue, et l'on veut jouer avec lui.
Puis, après avoir donné ce nouvel échantillon de ses réminiscences poétiques et de sa passion musicale, la Rose poursuivit.
« Bref, j'entrai jeune encore dans les gardes françaises. Mon physique distingué, mes manières d'homme de cour, ma tenue toujours flambante et 1000 autres qualités dont je supprime l'énumération, me firent rapidement monter en grade. Je passai sergent et je me trouvai, comme vous voyez, dans une assez jolie passe. En effet, à partir de ce moment, mon existence fut celle des véritables guerriers français, galants et troubadours. Je mêlais les myrtes aux lauriers, la déesse Vénus et la sœur du dieu Mars. Par ma guitare et par mon épée, on parla de moi au porcheron et chez Ramponneau, et les cœurs se suspendirent au croc de ma moustache, comme si Cupidon lui-même en avait astiqué les pointes.
Raoul ne put s'empêcher de sourire de ce grotesque enthousiasme. La Rose poursuivit.
Mes victimes furent innombrables. Je cherchais partout des cruels, et je n'en pouvais rencontrer. C'était, vous en conviendrez sans peine, un guignon guignonnant. Mes camarades, à l'unanimité, sauf le brigadier qui était marié et jaloux, me décernèrent le surnom de la clé des cœurs. Tout allait pour le mieux. Les duels et les amours ne me laissaient rien à désirer. La musique et la poésie, de leur côté, me favorisaient. Quand un beau matin, mon colonel me fit appeler chez lui. Et il m'annonça «
Quoi ? Devinez. »«
Que vous étiez cassé, peut-être, » fit Raoul.
« Tout juste. »«
Mais pourquoi ?» Je me fis la même question et j'y répondis en me souvenant que la protégée de notre major avait passé pour s'intéresser à moi plus que de raison.
Cette bonne fortune-là me coûtait un peu cher. Mais que voulez-vous? Vive l'amour quand même! Et depuis lors, comment vivez-vous? Ceci est un mystère, même pour moi. Ne cherchons point à le pénétrer. Fort bien, dit Raoul. À cette heure, je vous connais comme si nous avions trinqué ensemble tous les jours depuis 10 ans. Ah bah! C'est comme ça. Maintenant, causons. Tant que vous voudrez, pourvu que nous buvions en causant. Aimeriez-vous voir changer votre position? Comment l'entendez-vous? J'entends qu'au lieu d'avoir le gousset vide, vous y sentiriez balloter bon nombre d'écus de 6 livres, et même de louis de 24. Cela vous irait-il? Si ça m'irait, mais je le crois, fichtre, que ça m'irait. Eh bien, la chose est possible. Comment? On a besoin de vous. De moi? Ou du moins d'un gaillard de votre espèce. Qui donc en a besoin? Peu importe, vous le saurez quand il en sera temps, si nous nous entendons. Mais que veut-on faire de moi? Quelque chose comme un chef de partisan. Ah, il s'agit de guerroyer. Oui. Contre qui? On vous le dira plus tard. Soit, mais paiera-t-on bien? Royalement. Et qui paiera? Moi. Vous? S'écria la Rose en jetant un regard sur le costume râpé de Raoul. Vous? Répéta-t-il avec une défiance croissante. Moi-même? Cela vous étonne? Dame, un peu. Raoul sourit. Je puis vous rassurer, dit-il. Et comment? Voyez. Raoul tira de sa poche une poignée d'or et la fit étinceler sous les yeux éblouis de la Rose. Voilà des arguments sans réplique, s'écria alors ce dernier. Je suis convaincu. Avez-vous des amis? Demanda monsieur de la Tremblay. Pardieu! Dans la même position que vous? Un peu plus bas percé, si la chose est possible. Gens sur qui l'on puisse compter pour une expédition hasardeuse? Je répondrai d'eux comme de moi. Savez-vous où les prendre? À peu près, quoique leur domicile soit vague. Mais enfin, dans les halles et sous les ponts, nous les trouverons. À merveille! Combien vous en faut-il? 6. Vous serez le 7e et le chef. On vous les aura. Quand? D'ici à 2 jours. C'est tout ce qu'il faut. Et maintenant que je vois, à n'en pas douter, que nous tomberons d'accord, je vais entrer avec vous dans le vif de la question et vous expliquer de quoi il s'agit. Par ma guitare et par mon épée, s'écria la Rose, en appuyant son menton sur la paume de sa main droite, je suis tout oreille. Ce qui fut convenu ce soir-là, entre monsieur de la Tremblay et l'ex-sergent aux gardes françaises, il est inutile de le rapporter ici. Nos lecteurs ne tarderont point à connaître le résultat de cette délibération. Qu'il leur suffise de savoir qu'avant de quitter le cabaret, Raoul mit un bon nombre de pièces d'or dans la main frémissante de la Rose. Ce dernier, ivre de joie et d'alcool, mais toujours troubadour et galant, regagna son domicile inconnu en chantant à tue-tête. Loin de la route ordinaire et du pays des romans, je chante au bord de Cythère, les seuls volages amants, et viens plein de confiance annoncer la vérité du charme de l'inconstance et de l'infidélité. Quant à Raoul, il pouvait être 2 heures du matin quand il rentra dans son hôtel par la porte du jardin. Jacques l'attendait au coin du feu. Chapitre 18 En voyage. Quinze jours environ s'étaient écoulés depuis cette soirée où nous avons vu Raoul de la Tremblay s'aboucher avec l'ex-sergent Larose dans l'immonde cabaret de la pointe Saint-Eustache à l'enseigne de l'Union de Mars et de Vénus. Quittons Paris, si vous le voulez bien, et transportons-nous en Picardie, à une petite distance au-delà d'Abbeville. C'était par une belle après-dînée. Il pouvait être 6 heures du soir. Le soleil couchant disparaissait derrière des collines peu élevées, empourprant l'horizon du dernier éclat de ses feux,
émettant une frange d'or aux nuages roses qui moutonnaient dans le ciel pur. La route royale allongeait son ruban poudreux entre des champs bien cultivés, bordés de pommiers trapus, chargés de fruits rouges, qui promettaient une abondante récolte et un cidre délicieux. Une petite troupe d'hommes à cheval suivait cette route à une allure extrêmement modérée. Ces cavaliers étaient au nombre de 9. Le hasard les avait disposés de telle sorte qu'ils formaient ce qu'on aurait nommé en langage militaire une avant-garde, un corps d'armée et une arrière-garde. L'avant-garde ne se composait que d'un seul homme, marchant à 10 ou 12 pas de ses compagnons. 6 cavaliers formaient le gros de la troupe. 2 autres venaient en arrière, à une distance de 15 ou 20 pas. Tous ces hommes, excepté les 2 derniers, étaient revêtus d'un costume pareil, qui n'était ni une livrée, ni un uniforme, mais quelque chose de mixte entre l'habit du soldat et celui du valet. Tous avaient de longues moustaches, d'énormes rapières, des pistolets à l'arçon de leur selle et un petit porte-manteau attaché sur la croupe de leur monture. Les chevaux étaient des bêtes vigoureuses, capables de supporter les fatigues des marches forcées. Le cavalier de l'avant-garde fredonnait tout en s'abandonnant au pas de sa monture. « Fuyez, amants trop fidèles, qui, sur le ton langoureux, venez radoter aux belles, plus indolents qu'amoureux. Venez, troupes libertines de friponnes de fripons, à ma lyre qui badine, inspirez de nouveaux sons. Par ma guitare et par mon épée, s'écria le chanteur en s'interrompant et en se parlant à lui-même. J'ose prétendre que pour des vers d'abbé, ce sont de jolis vers. Un mousquetaire ne ferait pas mieux. À ces traits caractéristiques, on a reconnu l'honorable ex-sergent aux gardes françaises, La Rose, surnommé la clé des cœurs. Les 6 cavaliers qui le suivaient immédiatement étaient les recrues fournies par lui à Raoul de la Tremblay pour servir ses projets que nous pouvons deviner, mais que nous ne connaissons point encore de façon certaine. Le chevalier et son fidèle Jacques marchaient, comme nous savons, un peu en arrière. Raoul avait adopté pour ce voyage un costume presque militaire. Jacques portait une livrée, mais qui n'était point aux couleurs de la Tremblay. On approchait du terme de la route. Le prochain village était le dernier qu'on eut à traverser, avant d'apercevoir sur la gauche, au milieu des futaies centenaires, les girouettes armoriées de ce château où Raoul avait si longtemps vécu, comme enfant d'adoption du marquis Réginald. Aussi, depuis le matin, Raoul, assailli par ses souvenirs, était profondément préoccupé et n'avait point échangé une seule parole avec Jacques. Le jeune valet respectait le silence de son maître. On marcha ainsi pendant encore à peu près 1 heure. Puis, du haut d'une petite éminence, on aperçut, à la lueur douteuse du crépuscule qui descendait du ciel, étinceler les feux d'un village, distant d'environ 1/2 lieue. À cet aspect, La Rose tourna bride, et mettant l'éperon dans les flancs de son cheval, il lui fit faire un temps de galop jusqu'auprès de Raoul. Puis, saluant militairement, il demanda « Est-ce ici que nous arrêtons, monsieur ?»« Oui, » répondit Raoul. « Alors, je me détache en éclaireur, si vous le trouvez bon, pour faire préparer le gîte et commander le souper. »« Allez, pas d'autres ordres ?»« Non. » La Rose salua de nouveau et partit à une allure rapide qui prouvait que l'ex-sergent avait hâte d'arriver au gîte. Au bout de 20 minutes, la petite troupe atteignait le village, et l'on ne tardait point à voir La Rose debout devant la porte d'une hôtellerie d'assez bonne apparence. L'hôte et les garçons se précipitèrent. Les chevaux furent conduits à l'écurie, et les cavaliers, après avoir débouclé le porte-manteau attenant à leur selle, entrèrent dans la cuisine. Un grand feu flamboyait dans une haute cheminée. 2 servantes plumaient en toute hâte canards, poulets et dindons, et un petit garçon ajustait devant le foyer les supports d'une longue broche qu'un gros caniche blanc et noir s'apprêtait à tourner. Ce grand feu, ce mouvement, cette activité avaient un air de fête et donnaient appétit. La Rose s'approcha respectueusement de Raoul, qu'il ne connaissait, disons-le tout de suite, que sous le nom de monsieur, et lui demanda « Monsieur nous fera-t-il l'honneur de souper ce soir avec nous ?»« Non, » répondit Raoul. « Je suis souffrant et fatigué. On me servira dans ma chambre. » L'hôte entendit ces paroles et se hâta de conduire M. de la Tremblay à la chambre qui lui avait été préparée, d'après les ordres de la Rose, et qui était la plus belle de l'hôtellerie. On lui apporta à souper. Mais il n'avait pas faim, et il toucha à peine aux mets divers posés devant lui. « Jacques, » dit-il après avoir terminé en quelques minutes ce frugal repas. « Monsieur le chevalier ?» interrogea le valet de chambre. « Tu vas descendre aux écuries, et tu feras seller devant toi mon cheval. »
« Vous sortez, monsieur le chevalier ?» s'écria Jacques.
« Pour une heure à peine.
Mais la nuit est tout à fait tombée. Vous vous égarerez. »
Un triste sourire vint aux lèvres de Raoul. « Je connais le pays, » dit-il. « Allons, obéis, et va vite. » Jacques s'inclina et se mit en devoir de sortir. Au moment où il allait atteindre la porte, Raoul le rappela. Jacques revint. « N'oublie pas, » lui dit le chevalier, de visiter les fontes de ma selle. Assure-toi que les pistolets sont bien chargés et bien amorcés. » Jacques répondit affirmativement et s'éloigna, mais cette fois, sans être rappelé.